Bon ben bonjour à tous. Tout le monde est installé. Alors il faut bien se tenir parce que la séance est filmée, donc après on va se retrouver sur des réseaux sociaux, ça va être un peu un problème. On est ensemble pour presque une heure et demie. Bon, on va essayer de faire ça un peu cool. Je vais faire 35 à 45 minutes de présentation, ça dépend si vous posez des questions. Puis après, je vais lancer moi-même quelques questions, parce que je sais que l'amorçage est toujours difficile. Et en plus, après, on aura une petite séance où vous pourrez tenter de me décrypter, parce que c'est pas évident que ce que je vais vous raconter, ça soit exactement ce que vous soyez venu chercher. Donc aujourd'hui, c'est l'Amphicaco. Je vous propose de noter également qu'il y a une deuxième séance le mercredi 12 avril, où vous serez en petite classe voulant dire face à face avec d'anciens élèves, face à face avec des profs pour essayer d'affiner votre formation. Et je voudrais dans cette présentation aujourd'hui un petit peu vous embêter sur la question suivante. Vous venez là pour essayer de sélectionner votre département. Donc c'est le point en bas à gauche. On est en mai 2017, il faut que vous ayez rempli votre fiche et c'est ça qui va, selon vous, déterminer votre carrière. Moi, je suis en train de vous dire, ça ne se présente pas comme ça, en tout cas, je vais aborder le sujet de cette manière-là. Alors, si ça marche, voilà, hop, un seul à la fois. En fait, je vous propose de faire une petite séance de politique fiction ou de science-fiction tout court, si on se mettait aux alentours de 2030-2035, donc dans un peu plus d'une quinzaine d'années. Alors on va rigoler, essayez de vous projeter dans une quinzaine d'années. Vous allez commencer à approcher de la quarantaine. Ah bah oui, ça arrive. Vous allez voir après, ça se passe bon. Pour la plupart, vous serez en couple, divorcé, remarié, enfin avec des enfants. Vous commencez à vous y mettre dans l'affaire. Alors moi, je voudrais vous demander à ce moment-là d'imaginer ce qui se passe autour de vous pour regarder un peu comment le monde autour de cette quarantaine rugissante vers laquelle vous arrivez. Premier truc rigolo, vous sortez du resto et au resto, on vous a servi un truc un petit peu bizarre, enfin des légumes reconstitués, de genre, bah oui, parce que l'imprimante 3D est capable de fabriquer maintenant des aliments. Ça vous fait bien rire cette affaire parce que quand vous étiez, pendant vos études, vous aviez des bons copains qui sont partis à GMM et qui faisaient de l'imprimante 3D. À l'époque, ils sculptaient des trucs en des matières plastiques et maintenant on est capable de sculpter de la bouffe. On peut se poser la question de savoir si c'est un progrès, mais ça vous fait rire ça quand même parce que c'est un bon moment de souvenir. Après vous vous retournez et puis vous engueulez votre assistant personnel, un machin qui, quand vous étiez jeune, s'appelait Siri, et vous lui dites « Et au fait, c'est quoi ce bordel là sur la bourse encore ?» Alors, il vous pose quelques questions et en fait, vous découvrez que enfin un certain nombre de normes prudentielles sur les assurances et les banques sont mises en place. Ah, vous dites, ah oui, enfin. Et pourquoi vous dites enfin? Bah oui, parce que vous avez votre meilleur copain qui a fait SEGF et qui travaille sur le sujet depuis un bon moment. Et quand on dit un bon moment, bah, vous vous souvenez de 2017 parce que c'est l'année où Trump avait été élu et où avec ses copains Goldman Sachs, ils ont foutu un bordel dans le... Allô, j'écoute? Ils ont foutu un bazar. Vous avez vu la NSA là, qui commence à me... et que du coup, on est parti vers une crise économique et qu'on a cherché beaucoup, beaucoup d'ingénieurs pour essayer d'affiner les modèles. Bon, c'était déjà une bonne chose de faite. Votre copain, il est dans un bon endroit. Puis après, vous regardez autour de vous. Évidemment, vous êtes dans un bâtiment connecté. Et ah oui, bâtiment connecté, c'est vrai. Bernard de Volville, qui va parler juste après moi, eh bien, il va vous montrer les différentes tendances. Et ça vous fait rire parce que effectivement, vos copains de GCC, ils galéraient à l'époque, ils galéraient incroyablement parce que en fait, vous aviez une bonne copine qui voulait faire archi, qui était super contente. Mais alors, sur la partie liaison technologie, enfin tout ce qui allait, qui était en train d'exploser avec le data quelque chose, ah ben, c'était pas sa tasse de thé. Et ça vous fait rire parce que vous souvenez que vous aviez des bons copains qui faisaient ça aussi dans d'autres départements. Et quand vous passez la tête par la fenêtre, eh ben, qu'est-ce que vous voyez? Ah, de plus en plus de véhicules autonomes. Puis tiens, il y a votre assistant personnel qui vous rappelle qu'il y a un nouveau paquet que vous avez commandé, enfin que vous lui avez demandé de commander, qui est enfin arrivé sur le dépôt. Donc ça, c'est pour vous dire que je viens de vous donner quelques exemples de métiers, de situations, et vous pouvez vous dire, bah, et mes potes de IMI, ils sont où là-dedans? Parce que c'est bien gentil, là. Alors les IMI, on va repartir. Par exemple, sur les carottes, là. En fait, le IMI en question, il est parti avec son copain de GMM, ils ont fait de l'imprimante 3D, et puis comme à cette époque-là, c'était beaucoup pour l'industrie automobile, le gars de IMI, il a été récupéré par l'industrie automobile pour faire du véhicule électrique, puis après, sur le véhicule électrique, il est passé sur le véhicule autonome, puis sur le véhicule autonome, on l'a recruté pour faire du big data, parce qu'il fallait faire de la preuve de logiciel, et puis après, il a fallu qu'il passe sur un autre projet qui était de l'optimisation, où est-ce qu'on met les bornes de recharge. Enfin, il a bondi de sujet en sujet. Quant à votre autre bon copain, là, qui est avec en binôme avec le SEGF, qu'est-ce qu'il a fait? Alors lui, tout petit, enfin déjà à l'école, il s'occupait de trucs sociaux. Et il faisait du crowdsourcing avec du big data parce que c'était déjà son truc, le truc à la mode. Et puis, de manière surprenante, il est parti dans la banque. Et pourquoi il est parti dans la banque? Bah, pas pour gagner de l'argent, justement à cause de l'affaire Trump, et qu'il se disait il faut ramener un peu d'éthique là-dedans, et que ramener de l'éthique, c'est ramener de la science, et que ramener de la science, c'était le truc qui lui tirer les tripes. Et puis après, il est passé dans l'assurance. Et puis aujourd'hui, là, si ça s'est fait, il y a de bonnes chances justement qu'il continue dans l'assurance et qu'il monte un système d'assurance à lui, un système d'assurance mutualiste. Parce que en 2030, 2035, la plupart des systèmes se sont effondrés et que c'est pas complètement clair de pouvoir avoir une âme sociale. Bon, je prends deux exemples comme ça, un côté vachement rigolo, un côté un peu alarmiste. Et mon message, c'est que du côté de IMI, il n'y a pas un métier, mais il y a une suite de métiers. Parce qu'en gros, ce que je suis en train de vous décrire, c'est que il y a des familles de métiers qui reposent, qui ont un dénominateur commun, c'est la partie mathématique et mathématiques appliquées. Et c'est cette fibre-là que je voudrais faire vibrer entre chez vous. Les études actuelles, 2015, 2016, 2017, disent qu'il y a environ dans les pays occidentaux, environ 15% du PIB est lié aux mathématiques, directement ou indirectement. On vient de parler du big data, on vient de parler de la finance, de l'assurance, des maquettes numériques ou de ces machins-là. Donc ça, c'est chacun d'entre vous, il a ce potentiel-là de manière évidente. Il a un bagage de maths qui est assez exceptionnel. Et quand je dis assez exceptionnel, c'est qu'au même âge, si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, vous avez plus d'un an et demi d'avance sur vos collègues. Et que ça, c'est pas pour vous cirer les pompes, enfin pas uniquement, mais c'est pour vous dire que c'est à prendre en compte. Et que le deuxième truc, du coup, qui est important, c'est que quand vous vous posez la question quel choix de département et dans quelle entreprise je vais rentrer, et ben si on regarde sur les 15 prochaines années et si les projections de nos économistes sont bonnes, il y a environ 50% des entreprises de ces entreprises-là qui auront disparu. Non pas que leur activité aura disparu, mais qu'elles se seront fait bouffer les unes les autres. Donc de rentrer chez EDF, chez Google ou chez Total, ça ne peut pas être un choix de votre part. Ça n'a pas de sens. Ce qui a un sens, c'est que vous construisiez un ensemble de compétences et vous soyez capable de rebondir. Ben oui, parce que dans la série « Les scénarios catastrophes que j'anticipe », en 2030-2035, il y a de bonnes chances que des boîtes comme LinkedIn, par exemple, aient complètement raflé le marché de tous les CV, en particulier des CV des gens comme vous, qui sont plutôt dans le très haut du panier, que ces mêmes boîtes aient fait la connexion avec les besoins des RH de l'ensemble de ces entreprises et qu'elles vous proposent, elles vous poussent des jobs. Donc, sans être très pessimiste, il y a très très peu de chances que vous soyez dans une entreprise, mais il y a beaucoup beaucoup de chances que vous soyez, que vous sautiez d'une entreprise à l'autre, d'un job à l'autre, que vous le vouliez ou non. Alors ça, je suis pas capable de prédire comment ça va se goupiller, mais si le scénario noir arrive, c'est que vous contrôlez plus rien. Si un scénario modéré arrive, dans une quinzaine à une vingtaine d'années, ben vous aurez le choix via justement ce genre de réseau pour rebondir. Donc ce que moi je suis en train de vous dire, c'est que c'est pas un métier que vous êtes en train de choisir, c'est une carrière que vous êtes en train de construire, et que cette carrière, vous allez en dominer une partie, par votre formation, par vos compétences, etc. Et puis également par ce qui se passe à l'extérieur. Et ce qui se passe à l'extérieur, vous ne le dominez pas complètement. Donc, en gros, le département IMI, qu'est-ce que je vous propose ? Ben, vous avez une formation par les maths qui est ahurissante. Ahurissante, il y a très très peu de pays qui font une telle formation. Ben, ça serait peut-être le moment de la rentabiliser. Et il y a un truc qui est bien dans ce que je vous disais avec le PIB, 15% du PIB, c'est qu'il va y avoir un nombre d'emplois qui vont être liés aux maths tout le temps pendant les 15, 20, 30 prochaines années de votre vie. Donc il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas sauter d'un métier à un autre quand ça va commencer à secouer. 15% du PIB, ça ne fait pas 15% des emplois, parce que vous êtes des emplois à très forte valeur ajoutée, mais il faut savoir que des entreprises relativement standards comme l'automobile, c'est 10% des emplois, et ce n'est pas 10% du PIB, que le bâtiment, c'est 20% des emplois, et que ces emplois-là, ils vont, comme vous pouvez le voir en ce moment, ils secouent fortement. Avec une forte dominante de mathématiques, il y a peu de chances que vos emplois soient remis en cause. Alors que vous fassiez IMI, que vous fassiez SEGF, GI, on s'en fout. Mais cette caractéristique-là, vous l'avez, et moi je vous propose de la développer à IMI et carrément de la revendiquer. Alors après, comme vous pouvez le voir, les réseaux sociaux, ça n'arrête pas, ça rebondit dans tous les sens. Je viens de vous parler de LinkedIn, mais tout le monde est en train de parler de la révolution digitale. Alors on appelle ça Uber, on appelle ça, etc. Donc tous les métiers que vous allez faire, vous allez prendre cette révolution digitale, alors soit en pleine gueule, ça dépend, soit vous allez l'accompagner, soit carrément vous allez pratiquement la diriger. Les gens qui font aujourd'hui des mathématiques appliquées sont plutôt du côté des gens qui tiennent le bâton que dans celui qu'ils prennent en pleine tête. Bon, je dis pas que c'est une bonne chose, ça a quelques conséquences d'un point de vue éthique, je viens de vous dire tout à l'heure. Quand on fait aujourd'hui du big data, qu'on fait de l'automatisation à plein pot et qu'on détruit des dizaines de milliers d'emplois, on a une certaine responsabilité sociale aussi. Ça, on va essayer de vous l'apprendre pendant votre cursus. Mais justement, à partir du moment où on peut faire ça, on peut essayer de le faire proprement et bien. Après, évidemment, on vous parle de métier aujourd'hui. Moi, ce que je vous vends, c'est donc c'est pas un métier, c'est une évolution de métier. Et je pense que c'est bien mieux parce que moi-même, j'ai déjà fait 2 ou 3 types de métiers, tous liés aux maths. Mais vous, ça va être forcément sur un rythme incroyable. C'est-à-dire tous les 4 à 5 ans, dans les boîtes dans lesquelles vous allez travailler, l'environnement va changer. Donc, vous allez peut-être pas changer de métier, mais vous allez certainement changer de caractéristiques. Et ce qu'il faut, c'est que vous ayez quelque chose à chaque fois à, entre guillemets, vendre ou en tout cas vous défendre. Après, vous êtes au pont, c'est-à-dire que vous êtes pratiquement sûr à 99,99% d'avoir des jobs. Donc le problème d'avoir un emploi, c'est pas un problème. C'est le problème d'avoir un emploi qui vous intéresse et dans lequel vous puissiez évoluer, enfin vous puissiez vous faire plaisir. Au département de maths, vous allez voir, ça secoue un peu par moment parce que les cursus sont un peu chargés, j'en parlerai après. Mais notre but, c'est que vous puissiez vous faire plaisir. Et moi, j'ai rien d'autre à vous proposer comme stratégie pour vous faire plaisir que de pouvoir changer de job quand ça commence à vous emmerder. Et ça, c'est pas donné à toutes les formations. Et je vais essayer de vous montrer que les maths, ça mène à tout. Suffit d'en sortir. Enfin, bonne blague. Alors après cette introduction, si vous avez 1 ou 2 questions, je veux bien les prendre maintenant. Sinon, je commence à présenter les parcours, doucement mais sûrement. Non, c'est bon ? Après un petit peu de projection dans le futur. Donc là, vous n'avez plus 40 ans, mais vous avez plutôt aux alentours de 20 ans. Et on va regarder ce que ça donne sur les parcours qu'on propose et pourquoi on propose ce genre de parcours. Alors, il y a une famille de jobs là dans les 5 à 10 prochaines années sur lesquelles vous êtes sûr d'avoir une forte tension et tension dans le sens où il y a plus de demandes que d'offres. C'est tout ce qui tourne autour du traitement de la donnée. Les images, le texte. Alors bon, si vous baladez sur Facebook, vous voyez comment ça se passe. Alors évidemment, toutes les boîtes sont en train de faire de la fouille de données, et ça ouvre dans un parcours qu'il y a en deuxième année qui s'appelle machine learning, apprentissage, enfin bref, c'est des stats revisités et de l'informatique. Et ça ouvre vers un master qui s'appelle le master vision et apprentissage, qui est fait en collaboration avec Polytechnique, l'école normale, centrale et tout le bazar. C'est un master qui est extrêmement demandé en ce moment, ce qui veut dire que pour accrocher ce master, il faut un petit peu bosser, il faut avoir des bonnes notes, mais sinon ça se passe sans grande difficulté. Quels sont les métiers qui sont derrière ? Il y a de tout. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, moi, je m'intéresse en particulier à la reconnaissance du texte, les images étant plutôt sur le web. Le texte, ça va nous permettre d'avoir des commandes de vocales ou de la traduction automatique, et ça, toutes les entreprises en ont besoin. Par exemple, moi, je travaille dans une entreprise où il y a des monceaux de documentation. Avoir des ordinateurs qui sont capables d'extraire les concepts de kilomètres et des kilomètres de texte, c'est vraiment fondamental, et va y avoir des gains de productivité assez ahurissants. Va y avoir évidemment la notion, quand on fait de la fouille de données là-dedans, bah, les gens qui font du médical, par exemple, surveiller une opération au bloc opératoire et avoir des alertes qui préparent l'équipe au fait qu'il y ait des chutes de tension, qu'il y ait des trucs ou qu'il y ait des problèmes qui se passent. Eh bien, ça, c'est les nouvelles applications du machine learning. Faites attention parce qu'aujourd'hui, quand on vous parle de traitement de big data, tout le monde pense au web et aux gens qui vous recommandent de la pub. Oui, il y a beaucoup d'emplois là-dedans, mais il y a bien d'autres emplois qui vont exploser dans les 15 prochaines années. C'est quand ces techniques-là vont croiser la santé, la réparation ou la maintenance d'appareils, des avions, des voitures, etc. Donc il y a un nombre de jobs incroyable derrière ça. Un autre type de job, c'est des jobs, j'allais dire, relativement plus classiques. Derrière, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? La première image en haut à gauche, c'est un espèce de taxi volant qui est proposé par Airbus, mais il y a une boîte chinoise qu'en propose aussi. C'est-à-dire des machins qui sont électriques, parce qu'il ne faudrait pas que ça pollue trop, autonomes, parce que c'est quand même là où les boîtes gagnent le plus de fric, parce qu'il n'y a pas de chauffeur à payer, et puis individuels, qui permettent de faire du déplacement point à point ou de se raccorder à un certain nombre de hubs pour transporter les gens. Il y a des challenges scientifiques qui sont assez incroyables derrière. Donc c'est de la physique parce qu'il faut que ça vole ou faut que ça roule. C'est de l'informatique parce qu'il y a beaucoup d'électronique à embarquer. C'est des problèmes de données, de capteurs et d'analyse. Donc c'est pour ça qu'on retrouve encore des petits camarades qui font du big data à côté. Parce qu'il faut apprendre au système à se comporter dans des environnements qu'on a quand même du mal à anticiper, etc., etc. Après, il y a d'autres challenges qui sont derrière ça. En gros, c'est toute la modélisation de la physique. En bas, vous avez un truc sur le climat. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à part l'équipe de Trump encore, il y a les climato-sceptiques sont censés être minoritaires et on va quand même avoir quelques ennuis sur le climat. Donc la prédiction du climat donne encore des gros challenges. La prédiction de comment extraire des nouvelles sources d'énergie, que ce soit sur le nucléaire, l'éolien, le pétrole, etc. Toutes les entreprises dites classiques aujourd'hui sur l'énergie recrutent beaucoup de monde. Ça ouvre sur un parcours qu'on appellerait analyse numérique. Et le master, il porte un très joli nom, ANEDP, vachement sexy, qui veut dire analyse numérique et équation aux dérivées partielles. Il y a beaucoup de gens qui prennent cette voie-là, qui continuent en faisant une thèse. Ben pourquoi? Parce que ces métiers-là ont vu leur explosion dans les années 60, puis 70, puis 80 avec l'arrivée des ordinateurs, ce qui veut dire que la ligne de front est assez loin. Et donc, pour être compétitif chez Total en prospection pétrolière, c'est pas mal d'avoir fait une thèse. C'est pas exactement la même situation qu'il y a du côté du traitement des données, pour lesquelles la tension sur le marché du travail est telle que vous ayez fait une thèse ou pas, votre employabilité est de 153% minimum. Troisième parcours, optimiser. Alors, aujourd'hui, la chasse au pognon dans toutes les entreprises, l'optimisation, par exemple, du transport en région parisienne, ça conduit à des trucs qui sont vraiment très, 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 très délicats. Alors, le transport, prenons le cas, parce que cette école, elle est tournée vers la ville et le transport, et il y a d'autres représentants de département qui vous donneront d'autres exemples. Qu'est-ce qu'un IMI fait là-dedans? Eh ben, IMI, il fait essentiellement de l'algorithmie. Il fait également essentiellement des programmes pour essayer de trouver les meilleurs parcours possibles pour les trains, pour optimiser donc la SNCF ou la RATP. Il se pose la question de faire ça, de cette optimisation, sous des contraintes aléatoires. Bah oui, parce que les gens ont beau se déplacer de leur lieu d'habitation vers leur lieu de travail à peu près tous les jours, ils n'arrivent jamais à la même heure, etc. Donc, ça doit résonner chez vous sur le fait que, ben, à AMI, on va vous donner ces techniques d'optimisation, on va vous faire faire des probas, et puis le master qui est derrière, ou les masters d'optimisation, ils sont aujourd'hui en train de surfer sur la ligne de front, de faire ces techniques-là, sous contraintes incertaines. Et quand je dis ils sont en train de faire ça, ça c'est de la recherche. C'est-à-dire c'est pas implanté dans les entreprises, ce qui veut dire que le nombre de jobs qui vont arriver, pris par, je sais pas moi, les compagnies aériennes, le réseau EDF, par exemple, quand on branche des éoliennes sur le réseau EDF, si on n'y prend pas gaffe, on fait sauter le réseau. Donc toutes ces problématiques-là sont énormes, et là également, il y a un nombre de jobs incroyable. Dernier parcours, puisqu'il y a quatre parcours à l'intérieur du département IMI, c'est celui qui s'appelle finance ou maths appliquées à la finance. Et en fait, la vraie problématique qui est derrière, c'est moins la finance que la notion de risque. Et le risque, il peut être évidemment sur la finance et les assurances. Et c'est là où actuellement, il y a un nombre de jobs assez incroyable parce que les banques ont besoin de se couvrir, parce que les normes prudentielles sont en train d'arriver. Et que, comme je le faisais tout à l'heure dans mon introduction, les assurances sont quand même assez secouées par les profils d'évolution de population. Mais il y a un énorme challenge qui est en train d'arriver, c'est autour des matières premières. Les spéculations, une mauvaise récolte ou dans un endroit, une guerre dans un endroit, ça fait sauter le prix du pétrole. Et faire sauter le prix du pétrole dans un sens ou dans un autre, ça peut mettre KO des entreprises ou ça peut mettre KO des États. Donc le nombre de mathématiciens impliqués qui sont capables de sortir ces modèles-là et de faire des prédictions de risque pour que des managers ou des gouvernements prennent des décisions, ça, ce sont des métiers qui vont également exploser. Donc, je vous ai présenté quatre parcours et maintenant, ça c'est donc le contenu, c'est la colonne vertébrale de ce qu'il y a à IMI. On rediscutera de ces parcours le 12 avril. Et ma recommandation à l'heure actuelle, c'est de dire, si vous arrivez dans le département de IMI en disant je voudrais faire un peu de ça, ça tombe bien parce que vous allez faire un peu de ça. Les quatre parcours sont assez indifférenciés, au moins sur le premier semestre, parce qu'il nous semble très très difficile pour vous de vous déterminer. Et puis comme je viens de vous le décrire, c'est-à-dire que ce que moi j'essaie de vous vendre, c'est que vous allez pouvoir sauter d'un métier à un autre, et pour pouvoir sauter d'un métier à un autre, il faudrait bien que vous ayez suffisamment de compétences dans chacun de ces parcours pour pouvoir, entre guillemets, tirer profit d'une opportunité que vous allez avoir dans une boîte ou l'envie de monter une boîte parce qu'il y a un segment que vous avez détecté, enfin, toutes ces choses-là. On a moralement 2 ans pour faire ça, c'est-à-dire la deuxième année dans laquelle vous allez avoir ces parcours généraliste ou le plus généraliste possible. Enfin, sous-entendu, s'il y a quelqu'un qui vient en me disant « Moi, les probas, ça me sort par les trous de nez, je veux pas en faire. J'essaierai de vous convaincre qu'il faut faire un minimum. » Mais enfin bon, vous êtes là pour vous faire plaisir aussi. On va vous dispenser, on va se débrouiller pour vous trouver un parcours adapté. Après, assez classiquement, la plupart d'entre eux, des gens qui viennent à IMI font une année de césure pour aller tâter un peu des vrais problèmes à la SNCF, des vrais problèmes chez Safran, des vrais problèmes en banque, ce qui permet de dire, ce que je pensais vouloir faire, je confirme ou je fais marche arrière. Et quand vous faites des maths, faire marche arrière, c'est pas un problème, hein, parce que de toute façon, vous avez toujours encore un an ou un an et demi d'avance sur vos collègues étrangers en termes de niveau de maths, donc pas de souci, vous pouvez un petit peu faire des tests. La troisième année est un petit peu plus déterminante. Alors la troisième année, elle se passe comment? Eh bien, je vous ai ouvert les mots des masters. Les troisièmes années au département IMI sont faites avec des masters, sont à base de masters. Peut-être que Marie Prouveau vous a déjà parlé de la réforme qui est en cours sur les masters. Donc, il est possible, et moi je vous encouragerais à faire un master en même temps que la troisième année, le fait que du coup, avec le nombre de CTS qu'il y a à s'avaler, ça fait une troisième année qui est un petit peu chargée. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, accepteront peut-être de faire une prolongation de scolarité de 4 mois comme c'est prévu pour avoir les 2 diplômes. Peut-être que d'autres arrêteront sur la troisième année d'école, qui vaut au grade de master si vous voulez faire une thèse après. Donc ça, c'est une stratégie dont on discutera en petite classe, Et plus probablement, on la discutera au moment où vous reviendrez de vos années de césure pour savoir comment est-ce que on structure votre troisième année. Les quatre masters que je vous ai cités et qui ouvrent derrière les quatre parcours du département IMI, je vous garantis que sur la place parisienne, ce sont des masters de très très bonne qualité, c'est-à-dire dans lesquels les maths sont de bonne qualité, les enseignants sont exceptionnels, il y en a un certain nombre d'enseignants qui sont sur place et que vous avez déjà vu en première année. C'est-à-dire c'est des gens avec lesquels c'est vraiment un réel plaisir de travailler les sciences, de travailler les maths. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez quand même une petite propension à aimer les maths appliquées, mais ça, j'en doute pas. Alors, où en suis-je ? Ah bah oui, tiens, une page de pub là, entre à la fin des masters. Le problème qu'il peut y avoir avec le département de maths, c'est qu'à force de vous vendre l'aspect « vous allez faire des maths et vous allez les appliquer à différents endroits », vous pouvez vous dire « c'est bien gentil de rencontrer des profs, des labos, mais on aimerait bien s'ouvrir un peu sur le monde ». Alors du coup, on fait au moins une semaine, et ça c'est le premier contact que l'on aura ensemble, qu'on appelle « recherche et innovation ». Alors évidemment, vous, vous avez lu Maroc, mais moi je lis « recherche et innovation ». Je vois le principe. C'est pour ça que c'est une page de pub. Alors, recherche innovation, c'est parce que les maths et les laboratoires avec lesquels nous travaillons sont des laboratoires de recherche, et ça, ça fait la différence également sur les employeurs, mais que ce qui est à la mode actuellement, c'est de pousser les gens qui ont votre profil à essayer de faire des start-up ou de partir dans des petites structures pour transformer leurs très bonnes idées et leurs très bonnes formations en quelque chose qui a de la valeur. Alors, de la valeur pour le pays, de la valeur pour leur entreprise, puis de la valeur pour vous-même, parce que si vous mettez fabriquer votre start-up, c'est pour gagner de l'argent vous-même. Vous verrez que dans cet exercice-là, il y a loin entre avoir une idée géniale et réussir à la transformer en quelque chose qui a de la valeur et qui est achetable. Et ça, vous le referez en projet de département et vous le referez également en troisième année, où on vous embêtera sur ce côté-là. Il faut avoir plusieurs compétences dans votre formation. La compétence différenciante que vous avez, c'est votre niveau de science en général et votre niveau de maths en particulier. Et évidemment, puisque vous avez un an et demi d'avance en maths ou deux ans même sur les Anglais, ben pendant que vous faisiez des maths, eux, ils faisaient autre chose. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils faisaient beaucoup de projets, ils faisaient beaucoup de présentations, ils faisaient beaucoup de persuasion, ils faisaient du théâtre et des choses comme ceci. Toutes choses qui, d'un point de vue scientifique, n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais toutes choses qui, d'un point de vue développement, épanouissement, et éventuellement, quand on doit faire le guignol devant un banquier pour arriver à lui extorquer de l'argent pour sa boîte, ça peut avoir de l'intérêt. Donc, on va essayer de compenser ça. Alors, un peu de pub, j'ai dit. Ça, c'est pour vous montrer qu'on travaille quand même pendant cette semaine et que ce qui nous intéresse, c'est, si vous regardez les titres, c'est des gens qui ont fait des projets dont la qualité scientifique est reconnue, des gens qui ont été assez innovants, et ça, c'est pas la même dimension, des gens qui ont été capables de convaincre parce qu'ils ont fait une présentation assez exceptionnelle, et puis les chouchous, les gens qu'on aime bien. Bon, enfin, les prix, c'est simplement pour boire un coup à la fin, ça n'a pas plus de valeur. Si ce n'est quand même que vous voyez vers quelle direction on essaie de vous faire travailler et progresser. Alors ça, c'est un peu de pub. En septembre 2015, on voyageait sur Royal Air Maroc. Le coup de frime quand même quand à l'aéroport de Marrakech, on appelle les élèves de l'ENPC. Vous en avez beaucoup des comme ça, vous, non ? Bon, ça nous a fait plaisir. Ça, évidemment, c'était l'an dernier, toujours au Maroc. Et alors, suspense, cette année, on va là. Vous reconnaissez ? C'est pas au Maroc. C'est à Palma de Mallorca. Alors là-dessus, évidemment, quand je suis allé voir le directeur de l'école et je lui dis après Marrakech, on va à Palma, il m'a regardé en disant t'es sûr de la qualité scientifique et de la démarche pédagogique ? Je dis oui, bien sûr. Donc pas de blague. Alors oui. Alors, un peu de pub. L'université de Palma de Mallorca, elle est super balèze sur, justement, le traitement d'image et le lien. Et s'ils nous accueillent, parce que parce que c'est quand même des efforts pour eux. S'ils nous accueillent au mois de septembre 2017, eh ben c'est parce qu'ils ont déjà des liens assez importants avec un des laboratoires de l'école. Donc je peux vous garantir que là, le niveau scientifique est de bonne qualité. Bon, c'est la première fois qu'on va à Palma. J'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. On va voir. Et puis, il y a une petite prime pour ceux qui viennent. C'est bon ? Alors, on va doucement, mais sûrement, rentrer dans la session de questions-réponses. Et pour aller, pour amorcer le système, bah, ça fait quelques années que j'ai des échanges avec des élèves de première année. Et je vais déjà tenter de répondre à un certain nombre de questions que vous allez vous poser ou que vous allez me poser. Alors, la première, c'est le grand classique. Oh, purée! On a des retours des élèves des autres années, alors à IMI, il y a un boulot d'enfer, c'est super sélectif. La réponse, c'est bah non. C'est ce qu'on veut faire, c'est insister. Et ça, c'est vraiment le contrat que je passe avec vous. Vous êtes bon en maths. C'est quand on est jeune, et pas à mon âge, qu'on fait des maths. Donc évidemment, on charge assez fort la deuxième année, et le volume de cours et le volume de cours de maths et de maths appli est assez élevé. Et que du coup, ça c'est pour vous permettre d'être différenciant. Si vous allez dans une banque, dans une assurance, dans un des endroits où vous allez être par exemple en compétition avec des mecs de Sciences Po ou de HEC, eh bien votre différence, ça sera le fait que vous soyez des ingénieurs et que vous soyez des ingénieurs mathématiciens. C'est ça qui est important. Donc je suis désolé, le meilleur moyen de le faire, c'est quand même de le faire en deuxième année. Et puis après, vous allez souffler un peu sur la partie année de césure. Et en troisième année, il y aura de nouveau du boulot, mais ça sera a priori beaucoup plus ciblé. Alors, moi, je dis pas que c'est super sélectif, c'est pas le but, c'est super chargé. Mais on va essayer de faire ça de manière intelligente. Alors après, il y a le grand classique, c'est « Oh bah oui, si on vient pas de MP à IMI, on se prend des bananes à n'en plus finir. » La réponse est « Évidemment non, pas de conneries. » Alors, évidemment, comme on insiste sur les maths, les élèves de MP ont plus l'habitude d'avaler des kilos de formulation, enfin, de science à la mode mathématique. Et les gens qui ont fait des PC, ils disent, putain, ça fait chier un peu, il y a des trucs. Alors là, deux configurations. Soit dans le contingent qui arrive à IMI, il y a beaucoup de gens qui ont fait PC. Et à ce moment-là, les enseignants feront gaffe, feront des groupes de niveau, enfin, ils se débrouilleront. Soit il y a une ou deux personnes qui se disent « je tente le coup et je vais voir ». Et à ce moment-là, on fera du tutorat sur les 3-4 cours sur lesquels risque d'y avoir un problème. Mais en première année, là, vous avez fait des trucs qui étaient indifférenciés. Vous avez vu déjà sur certains trucs de maths des groupes, des sous-groupes se mettre en place. Les enseignants sont capables de faire ça. Donc, si un élève de PC, de PSI se dit « Tiens, je voudrais bien aller à IMI, mais j'ai peur que ça soit trop la galère pour moi », la réponse, c'est « On va se débrouiller hein. ». Vous avez vu la taille des promos, le département de maths, bon an, mal an, il recrute 25 concours communs, plus ou moins 5. Donc, on a absolument la possibilité de traiter des cas particuliers. Après, le grand classique, c'est, admettons que je veuille faire de la finance, et on dit, IMI, c'est moins bien que SEGF, ou IMI, c'est mieux que SEGF. Alors, la réponse, c'est, non, la question, elle se pose pas comme ça. Vous n'êtes pas en train de choisir entre IMI et SEGF pour faire de la finance. Vous êtes en train de dire, par où est-ce que je vais rentrer chez HSBC ou chez Goldman Sachs, puisque je leur en veux particulièrement. Alors, si vous venez de SEGF, vous allez être bien meilleur qu'un IMI sur la notion d'économie, sur la notion de, sur les concepts de finance. Si vous venez de IMI, vous serez bien meilleur sur les techniques mathématiques. Donc, c'est pas exactement le même métier. Mais dans les deux cas, celui qui est SEGF devra faire un peu de maths complémentaire également pour se distinguer de ses collègues américains. Et celui qui sera IMI aura tout intérêt à aller faire un ou deux cours de finance ou de macroéconomie, etc., pour avoir le vocabulaire et être capable de s'interfacer avec les gens avec lesquels ils travaillent. Donc, en fait, c'est pas exactement le même métier. Et d'ailleurs, que ça soit avec SEGF ou avec le département GI, tous les ans, on a des élèves qui ont du mal à se déterminer et pour lesquels on fait des cursus qui sont un peu à cheval. Alors, un peu à cheval, je dis, on faut faire attention parce que comme l'emploi du temps est super serré, pour que vous ayez un cursus qui soit à cheval et qui soit pas n'importe quoi, c'est-à-dire qui soit pas vide, parce qu'il est ni bon en IMI, ni bon en SEGF, ni bon en etc., il faut faire un peu gaffe. Mais en tout cas, on est capable de gérer ça. Il n'y a pas de compétition entre les départements. Vous pouvez faire. Question suivante, le président d'IMI est complètement à l'ouest. Bon, d'accord, ça c'est vrai, mais on va pas y passer l'après-midi. Hein. Alors, un grand classique, c'est on peut pas faire de 3A à l'étranger, c'est n'importe quoi. Ah bah non. De toute façon, la 3A, c'est pas le département qui signe, c'est l'école qui a des accords avec l'étranger et qui fait des 3A à l'étranger. Ça a des contraintes de faire des 3A à l'étranger sur la durée de votre cursus. C'est un autre truc, c'est sur le coût, parce que classiquement, si vous voulez partir aux États-Unis, les études sont payantes. Donc c'est là où il y a une singularité à IMI, vu les quatre masters que je vous ai préchauffé et proposé. S'inscrire en master MAF, par exemple, pour faire de la finance à Marne-la-Vallée avec les gens, ça va vous coûter votre inscription en troisième année et puis pas plus. Si vous vous inscrivez à Columbia, si vous vous inscrivez à Stanford, ça va vous coûter 30 000, 40 000, 50 000, 70 000 dollars. Faut se les envoyer quand même. Ça dépend des accords qu'il y a. Donc, faut que le jeu en vaille la chandelle. Évidemment, c'est pas le même enseignement. Et en termes de maths, par exemple, pour ceux qui sortent du département de maths, aller à Stanford ou aller à Columbia, alors ça n'a aucun intérêt pour la partie maths, parce que en niveau de maths, ils sont un cran en dessous. Donc, évidemment, vous allez vous la couler douce. Hein. Ça, il n'y a pas de sur la partie maths. Vous la coulez moins douce sur d'autres parties. Mais donc, si vous voulez continuer à vous différencier par les maths, c'est probablement pas en troisième année de IMI qu'il faut aller à l'étranger. C'est probablement après ou pendant l'année de césure ou ce que l'on propose maintenant et qui est en test cette année, donc j'ai pas encore les retours, c'est de partir en deuxième semestre de la deuxième année. On a un certain nombre d'accords avec des écoles à l'étranger pour faire un deuxième semestre à l'étranger. Ce qui a le bon goût de remplir votre obligation à l'étranger et de la remplir de manière intelligente et bien structurée, parce que quand on remplit son obligation à l'étranger par des stages d'été, c'est toujours un peu bidouillique. Et de vous laisser la possibilité de rester en France en troisième année. Donc ça, oui. Je peux dire qu'il y a plus de la moitié, il y a peut-être même plutôt trois quarts des promos de IMI qui restent en France en troisième année, mais par choix de qualité de master, et qui font des expériences à l'étranger dans d'autres circonstances. Donc il ne faut pas se tromper, ce n'est pas le département, c'est vraiment un choix. Ça c'est un truc qu'on construit ensemble. D'un autre côté, je passe une grande partie de mon mois de décembre et de mon mois de janvier à écrire des recommandations pour des élèves de IMI qui ont des bonnes notes, pour Berkeley, pour Stanford, pour Columbia, pour etc. Donc il n'y a aucun problème, on part à l'étranger en venant de IMI. Alors que vous allez voir que vous avez déjà vu Dominique Jacquet, non, de SEGF? Bon, vous allez le voir. Alors, dans la formation de SEGF ou dans la formation de GI, le départ à l'étranger a un sens qui est bien supérieur. Moi, en IMI, je vous dis, vu la qualité de mathématiciens que vous êtes et les labos qui sont autour, c'est pas le meilleur moment pour partir aux States, par exemple. Sans compter qu'on peut essayer d'éviter Donald. Alors, l'info. Oui, dans IMI, il y a ingénierie, mathématiques et informatique. Et en info, ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce que l'image qu'on voit dans les films américains du mec qui fait de l'informatique, c'est un espèce de geek qui sort pas de machin. Alors, c'est pas vraiment ce qu'on fait. Par contre, là, je vous amène à réfléchir à ce truc-là. Vos premiers jobs et surtout ce qu'on va attendre de vous dans les 5, voire peut-être presque les 10 prochaines années, c'est d'être capable de faire du prototypage dans les entreprises dans lesquelles vous allez travailler. Et comme il y a beaucoup de choses qui sont à base d'informatique, entre être un geek et être complètement neuneux devant son clavier, il y a toutes les nuances. Et ce qu'on fait à IMI, c'est qu'on vous apprend à programmer à programmer pour être capable d'être, de faire les premiers pas de data scientist, puisque c'est un truc qui est à la mode, de faire les premiers pas pour faire un modèle et programmer un modèle de Kant quand on va en finance, d'être capable d'utiliser correctement avec un sens critique un schéma numérique quand on va au CEA et qu'on va faire de la recherche, enfin toutes ces choses-là. C'est-à-dire que on fait pas de vous, c'est pas une école d'informatique, mais c'est une école, et avec la révolution digitale qui est en train d'arriver, quel que soit le département que vous allez choisir, vous allez croiser le besoin d'avoir quelques compétences en informatique. Nous, ce qu'on essaie, c'est de le faire de manière un peu structurée et de suffisamment bon niveau pour que vous arrêtiez de perdre du temps après. Statistiquement, si vous avez un niveau de mathématiques qui est assez homogène, vos compétences en informatique, votre appétence pour l'informatique et le fait que vous soyez doué ou pas devant des programmes, ça, c'est très, très, très variable. Donc là, il y a un certain nombre d'entre vous qui pourraient souffrir si on leur donnait trop d'informatique. Nous, on fait ça par mode de projet. Donc, on détecte assez vite les élèves qui sont en difficulté et qui éventuellement perdent du temps. Donc ça, on peut passer. Le reproche sur le fait que beaucoup d'enseignants que vous allez avoir sont des chercheurs et pas des vrais professionnels, ça, c'est pas du tout un problème, parce que justement, encore une fois, en insistant sur votre formation, il est vachement important que vous ayez dans votre cursus et dans votre réseau des chercheurs. Quand vous allez arriver, par exemple, pour un stage en année de césure au STIF pour faire des trucs sur les transports, et que vous allez tomber sur un problème qui, d'un point de vue maths, est complètement indémerdable, eh ben, ça sera une bonne idée de pouvoir se retourner vers votre prof, parce que c'est un chercheur et que lui va vous aider. Ça, c'est un truc qui va, encore une fois, être différenciant. Des professionnels, vous avez le président de département déjà, et puis vous allez en rencontrer, on fait des semaines avec des professionnels. Là, c'est pas un problème. Avoir un bon réseau chez les chercheurs est certainement un truc qui a un sens et qui est très complémentaire de la formation IMI, bien plus que d'avoir des réseaux de professionnels. De toute façon, le département a des réseaux de professionnels, de toute façon, les gens qui enseignent ont des réseaux pour vous envoyer, donc c'est pas un vrai problème, ça. Alors, le fait qu'on essaie de compléter votre formation théorique par des projets, ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup de projets, que dans ces projets, c'est là où on fait de l'informatique, et que quand on n'est pas très doué en informatique, on peut rapidement perdre beaucoup, beaucoup de temps. Ces 3 ou 4 dernières années, on avait des élèves qui revenaient vers nous en disant « Ah non, là, il y en a ras-le-bol, on a passé une partie des vacances de Noël à finir le projet informatique. » Et chaque fois, on leur disait « Mais c'est pour ce qu'on vous demande !» Donc, là, ce qu'on a réussi à faire, et vous aurez les témoignages de vos potes qui sont dans la promo qui est juste avant vous, c'est qu'on a compacté dans différents cours les projets pour que les projets informatiques et les projets de mathématiques appliquées soient rassemblés en un seul et même projet. L'avantage, ça veut dire que ça fait un projet de plus grande envergure et que quand les élèves peinent parce qu'ils perdent du temps en programmation, ils sont moins en difficulté. Et puis là, c'est un truc que je vous dis déjà, mais souvent vous êtes trop bons élèves. C'est-à-dire que quand vous êtes en difficulté, quand vous n'arrivez pas à faire un truc, on est totalement capable de trouver une solution. Le nombre de fois où on a décalé des soutenances, le nombre de fois où on a fait du soutien à un élève qui était en difficulté parce qu'il avait été malade ou parce qu'il avait planté un truc. Mais ça, on est vraiment capable de faire du sur-mesure. Donc, pas question que vous peigniez sur les projets. Alors que le projet IMI, c'est quand même là où vous allez sentir vos vraies envies. Et c'est ça que vous allez vendre quand vous allez partir dans les années de césure. Alors, c'est quoi les métiers de IMI? J'ai fait toute l'intro là-dessus. Le métier de IMI, c'est celui que vous allez créer vous-même, parce que mathématicien, ce n'est pas un vrai métier. Enfin, si, il y a quelques chercheurs en mathématiques. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vont faire une carrière universitaire. Mais la plupart d'entre vous vont faire une carrière par les mathématiques, ou en tout cas vont débuter leur carrière par les mathématiques. C'est encore une fois ça que moi, je vous propose de faire. En tout cas, je vous propose d'y réfléchir et de venir en parler le 12 avril avant de faire votre choix définitif. Est-ce qu'on gagne du pognon quand on fait IMI? J'espère bien. Alors, vous avez fait des stats, vous savez qu'il faut un intervalle de confiance, donc je vais évidemment sortir un ou deux exemples. Je pense que l'élève qui a fait les ponts et qui gagne le plus de pognon, il vient de IMI. C'est un certain Pierre, dont je ne citerai pas le nom, qui a fait une boîte, deux boîtes, trois boîtes, qui s'est planté la gueule. La quatrième, il l'a vendue à Microsoft pour 100 millions de dollars. Il a moins de 30 ans. Bon. Alors, c'est ce qu'on appelle un point singulier. Non. Parce que, et ça veut dire que ce n'est pas IMI qui lui a mis ça dans les mains. Il avait cette capacité de créativité incroyable avant. Simplement, à IMI, on lui a permis de tester ça. Il a fait un projet, deux projets. Il a justement fait un projet avec GI sur l'aspect design thinking. Il est parti au State, il a fait ça. Le deuxième Gugus qui gagne le plus de pognon, puisqu'il vient de passer un million d'euros là à Noël dernier de gains, après 3 ans et demi, c'est un mec qui a fait SEGF avec un grand bout de IMI dedans. C'est-à-dire, encore une fois, il s'est distingué par les maths, il a fait de la finance, il a un esprit exceptionnel, il cartonne, il a des bonus à n'en plus finir. Même chose, je ne vais pas tirer la couverture ni sur SEGF ni sur IMI. Ce môme-là que je connais bien, Emmanuel, il était champion d'échecs à 6 ans, donc, donc il avait des capacités avant de venir au département. Bon, mais une fois qu'on sort de ces cas extrêmes, des success stories et des gens qui gagnent beaucoup d'argent ou qui peuvent gagner beaucoup d'argent, oui, il y en a un paquet d'entre vous. Mais ce qui est important, à mon avis, c'est que vous vous fassiez plaisir, parce que vous allez voir, l'argent, c'est qu'une partie du métier. Hein. Il y a quand même gagner beaucoup d'argent en se faisant chier, c'est pas une bonne idée, à mon avis. Vous avez la possibilité de choisir, vous. Alors, est-ce que je peux changer de département? Est-ce que je peux changer de filière? Je comprends bien que vous avez une décision à prendre au mois de mai, normalement, et que c'est pas clair. Ah bah oui, je ferais bien IMI parce que ça a l'air d'être rigolo ce qu'il raconte le père du zoo. Oui, mais GI, ils font du design thinking, ça me plaît bien aussi, machin. Bon, ok. Alors, évidemment qu'on peut faire ça. Ce qu'on vous demande, c'est de pas foutre un bordel trop important parce que si vous n'arrêtez pas de changer de filière, vous allez avoir un cursus qui va ressembler à rien du tout. Donc, moi, je vous propose de bien discuter avec les différents présidents et de sentir ce qui résonne au fond d'entre vous. Tous ceux qui se disent « j'ai bien aimé les maths » ou « j'aimerais bien faire des maths encore un petit peu ». En gros, je suis pas à bout, je suis pas saturé, je suis pas et qui se dit je sais pas bien ce que je vais faire comme métier, mais l'idée de rebondir et de faire une carrière par les maths ou en tout cas un début de carrière par les maths. Alors ceux-là, je les encourage à venir discuter avec Mohamed Al-Rabi et moi-même parce que ces gens-là ont un profil naturel IMI. Tous les gens qui ont un mode de pensée en disant par exemple ceux qui veulent faire architecture. Là, le département de maths, il est mal barré, il vaut mieux aller voir Bernard qui vient juste après. Tous ceux qui se disent « Ah, j'aimerais bien faire de l'entrepreneuriat ». L'entrepreneuriat, on peut le faire à GI parce qu'il y a une filière entrepreneuriat, mais il faut entreprendre sur quelque chose. Si vous entreprenez sur quelque chose qui est très technologique, par exemple à base de big data sur le web pour faire des applications, c'est pas complètement stupide de faire une double formation ou de commencer par IMI et de faire la partie entrepreneuriat après. C'est un choix qui se discute. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire derrière? Toujours, je suis en train de marteler la même chose. Il y a des choses qu'on apprend quand on est petit et des choses qui sont très difficiles à apprendre quand on est plus vieux. Faire des maths, il faut le faire à votre âge. Là, vous avez le cerveau qui est le maximum ouvert. Donc ça, là, vous êtes une vraie éponge. Là, vous tirez le maximum de bénéfices des cours qui vous sont donnés. D'un autre côté, il n'y a pas que ça dans la vie. Et il faut être capable de s'ouvrir à autre chose. Mais du design thinking, de la lecture, sur de l'économie, on peut le faire au niveau de la troisième année. On peut même le faire après. C'est pas rédhibitoire. Faire des maths quand on a 40 balais pour réapprendre des techniques d'optimisation, de recherche opérationnelle, c'est un peu pénible. Donc voilà ce que je suis en train de vous dire. Et toutes les formations ont vraiment un gros intérêt. Alors, tiens, j'ai eu ça comme question. C'est pas un métier pour les filles. Ben, voilà autre chose. alors ça, c'est encore une fois, je pense, c'est les clichés qui peuvent arriver du style... à mon avis, c'est le mot informatique. Parce que c'est vrai qu'il y a statistiquement très peu de filles qui se mettent dans les métiers d'informatique. Mais département IMI, il ne fait pas de l'informatique. Hein. L'informatique, c'est un... Quand on fait de la reconnaissance d'images, par exemple, pour faire de la classification pour Facebook, on fait de l'info, mais on fait de l'image, mais on fait du business, mais on fait du collaboratif, Alors là, c'est pas un, y a pas d'orientation. Alors je dis ça parce que j'ai été très surpris d'avoir cette remarque-là. Donc au moins, allez, j'enfonce la porte, on verra bien. Après, les maths, est-ce que ça mène vraiment à tout ? Évidemment, avec la présentation que je viens de vous faire, le métier, vous allez le créer. Tiens, un certain Fabrice Bonneau qui est passé hier, vous l'avez vu, Fabrice, de GI ? Plutôt sympa comme mec, hein. C'est un ancien de IMI. vous dites pas que. Pierre Salnave de VET, formation par les maths. Alain Herlacher de GMM. C'est un mécanicien, mais grosse formation par les maths. De toute façon, on s'en fout que ce soit une formation par les maths, c'est une formation par les sciences, et la formation à la française, c'est une formation qui est très forte par les maths. Donc, bien sûr, vous allez faire ça. Moi, j'ai fait une formation par les maths et je travaille dans l'aéronautique. J'ai fait 2-3 types de métiers. Formation d'analyste au début, donc ANEDP, que je vous ai cité tout à l'heure. Puis maintenant, je fais des probas et puis de la recherche opérationnelle. Et puis évidemment, du big data comme tout le monde, etc. Et puis, un petit coup de frime, un petit coup de pub. Même mon neveu a fait une formation par les maths. Et aujourd'hui, c'est le leader de Chaka Ponk. Donc, on fait de tout. Alors, conclusion avant qu'on arrive à vos questions. On se retrouve le 12 avril avec ce qui serait bien le 12 avril, c'est que vous fassiez les remontées à Mohamed El Rabi, moi-même, Sandrine Guilherme, donc l'équipe du laboratoire qui est là, et que vous leur disiez qui est-ce que vous voulez rencontrer en vrai. Parce que si vous voulez rencontrer massivement des élèves qui vous disent comment sont les cours et comment est-ce que je vous ai menti effrontément pendant une heure, là, c'est pas pareil que si vous voulez rencontrer des chercheurs pour commencer à regarder comment ça se goupille parce que vous avez envie de faire ça. On peut vous faire rencontrer également assez facilement des gens, des entreprises, parce que les projets que l'on fait sont avec des entreprises. Donc c'est vous. De quoi avez-vous besoin pour affiner votre décision? Là, c'est assez tranquille. Et puis moi, je vous ai dit, je suis un professionnel. Donc quand je disais que le président est à l'ouest, c'est parce que mon vrai métier, c'est directeur scientifique au centre de recherche d'Airbus, qui est à Suresnes. C'est pour ça que je suis à l'ouest.